Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des psaumes, au psaume 59. Psaume 59. Et si vous avez été attentif ces dernières semaines, vous verrez que la première phrase du titre est la même que dans les psaumes 57 et 58. Psaume 59, voici donc la parole de Dieu. Au chef des chantres, ne détruis pas, hymne de David. Lorsque Saül envoyait cerner la maison pour le faire mourir. Mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis, protège-moi contre mes adversaires, délivre-moi des malfaiteurs et sauve-moi des hommes de sang, car voici, ils sont aux aguets pour m'ôter la vie. Des hommes violents complotent contre moi, sans que je sois coupable, sans que j'aie péché, ô Éternel. Malgré mon innocence, ils courent, ils se préparent. Réveille-toi, viens à ma rencontre et regarde. Toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d'Israël, lève-toi pour châtier toutes les nations. N'aie pitié d'aucun de ces méchants infidèles. Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens, ils font le tour de la ville. Voici, de leur bouche, ils font jaillir le mal, des glaives sont sur leurs lèvres, car qui est-ce qui entend? Et toi, Éternel, tu te ris d'eux, tu te moques de toutes les nations, quelle que soit leur force, c'est en toi que j'espère, car Dieu est ma haute retraite. Mon Dieu vient au-devant de moi dans sa bonté. Dieu me fait contempler avec joie ceux qui me persécutent. Ne les tue pas, de peur que mon peuple ne l'oublie. Fais-les errer par ta puissance et précipite-les, Seigneur, notre bouclier. Leur bouche pêche à chaque parole de leurs lèvres, qu'ils soient pris dans leur propre orgueil. Ils ne profèrent que malédiction et mensonge. Détruis-les dans ta fureur, détruis-les et qu'ils ne soient plus. Qu'ils sachent que Dieu règne sur Jacob jusqu'aux extrémités de la terre. Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens, ils font le tour de la ville. Ils errent çà et là cherchant leur nourriture et ils passent la nuit sans être rassasiés. Et moi, je chanterai ta force. Dès le matin, je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. Ô ma force, c'est toi que je célébrerai, car Dieu, mon Dieu tout bon, est ma haute retraite. Et jusque-là, la parole de Dieu. Ce psaume 59 et le psaume suivant, le psaume 60, viennent conclure une partie de ce livre des psaumes où l'on a surtout des prières pour la délivrance d'ennemis méchants. Le psaume 59 est attribué à un épisode au début de la vie publique de David, alors que le psaume suivant, le psaume 60, est attribué à un épisode un peu plus tard. Mais après ces deux psaumes, 59 et 60, le thème de la prière de David n'est plus la prière pour la délivrance, mais plutôt celui de la communion avec Dieu. Et Dieu voulant, nous les verrons un peu plus tard. Psaume 59 nous dit qu'il a été écrit lorsque Saül envoya cerner la maison pour le faire mourir. Cet événement a marqué le début des ennuis de David avec le roi Saül. Saül s'est d'abord réjoui et a salué David pour sa victoire sur le géant Goliath. Mais il est rapidement devenu jaloux de la fameuse popularité de David. Et l'envie de Saül a empoisonné ses pensées envers David. Il a commencé à imaginer des complots contre David, malgré la loyauté de David, malgré le service fidèle de David pour le roi. Et Saül est devenu si furieux qu'à deux reprises, il a essayé de tuer David avec sa lance, mais il a échoué. Et Il a envoyé, le roi Saül a envoyé des méchants, des voyous, pour encercler la maison de David, pour le tuer. Mais la femme de David, la fille de Saül, Michal, a averti David, elle l'a aidé à s'échapper par une fenêtre, elle a trompé les serviteurs de Saül assez longtemps pour que David puisse s'échapper. On peut lire ce récit en 1 Samuel 19. Le psaume 59 contient de nombreux éléments qui se rattachent à cette histoire. Mais il semble qu'à un moment donné, il a été élargi pour appliquer les leçons de façon plus générale. David voit les méchants envoyés par Saül comme le symbole des nations qui s'opposent à Dieu. Verset 6, verset 9. Il voit une analogie entre sa délivrance et le soin que Dieu prend pour son peuple qui est persécuté. Un commentateur résume en disant que tout comme Dieu a protégé et délivré David lorsqu'il était entouré par les forces hostiles du roi Saül, Dieu protégera et délivrera son peuple de tous les ennemis qui peuvent l'entourer. Ce psaume 59 est organisé en deux requêtes principales que David adresse à Dieu. Les deux requêtes se terminent par un refrain qui exprime la foi de David dans la délivrance qui vient de Dieu. Les deux requêtes sont similaires, les deux refrains sont presque identiques, mais quand il y a des différences, et quand on remarque ces différences, on voit comment la prière pour que Dieu change les circonstances de David a un impact encore plus grand, parce qu'elle va changer David en renforçant sa foi en l'Éternel. Tout d'abord, le premier point, la première requête de David, la délivrance. Cette première requête, on l'a dans les versets 2 à 8, c'est un appel standard, si on peut dire cela, pour que Dieu le délivre des ennemis méchants. « Mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis, protège-moi, délivre-moi, sauve-moi. » Ce sont des prières, on dirait des prières fléchées, le genre de prières que le croyant paniqué va tirer vers le ciel. Délivre, protège, sauve. David crie contre ceux qui sont aux aguets, qui complotent, qui courent, qui se préparent, qui font jaillir le mal. L'exemple de David montre que, aux croyants que lorsque tout ce que nous pouvons faire est de prier, nous ne devons pas hésiter de le faire. Et de le faire de la manière la plus directe. David prie non seulement Dieu pour être délivré, mais quelque part, il reste aussi assez calme pour prier avec logique, avec soin. Et il soumet trois raisons pour lesquelles Dieu devrait l'aider. La première, c'est le grand danger qu'il doit affronter. Le verset 7, par exemple, représente David qui est encerclé par des chiens qui grognent, qui lui montrent leurs dents, qui ne prennent même pas la peine de cacher la nature sanguinaire de leur mission. Et David s'inquiète parce que ces hommes se disent ben, « Qui est-ce qui entend ?» Verset 8. Comme David, on devrait envoyer des prières à Dieu comme des flèches, des fusées qui se dirigent vers le ciel chaque fois que nous sommes entourés par le danger, que ce soit une menace physique, une tentation de péché, ou une agression spirituelle ou émotionnelle. Est-ce que nous sommes découragés? Alors parlons à Dieu de nos sentiments. Est-ce que nous sommes consternés? Alors demandons à Dieu qu'il nous donne du courage. Est-ce qu'on a besoin d'une provision urgente? Le Seigneur Jésus-Christ a promis, en ce qui concerne les besoins réels de ses enfants, demandez, et l'on vous donnera, car le Père donnera de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. David affronte un danger réel. La deuxième raison, en plus d'énoncer le danger, David va plaider son innocence dans cette situation. Versets 4 et 5. Ils sont aux aguets pour m'ôter la vie, des hommes violents, sans que je sois coupable, sans que j'aie péché, ô Éternel. Malgré mon innocence, ils courent. David, bien sûr, ne revendique pas la perfection sans péché. Il n'essaye pas non plus de se justifier par des bonnes œuvres. Au contraire, il souligne qu'il n'est pas en difficulté à cause d'un péché de sa part. En ce qui concerne cette situation, David est une victime innocente. Il est victime d'une injustice, d'une méchanceté. Et c'est à cause de l'innocence de David que la haine folle de Saül est si tragique. Saül était sûr que David complotait contre lui, alors qu'en réalité, David était complètement loyal envers le roi. Les actions meurtrières de Saül étaient extrêmes. Et le problème des fausses accusations, du ressentiment déplacé, est quelque chose d'assez commun, surtout quand notre pensée est assombrie par la jalousie, par l'insécurité. Proverbe 14, 29 dit ceci: « Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. » Proverbe 14, 29. Si on pense, nous, que quelqu'un nous en veut, est-ce que nous sommes prêts à reconsidérer les preuves? Est-ce que dans la prière, nous avons pensé à nos propres motivations? Est-ce que nous avons fait une tentative sérieuse pour parler de nos préoccupations avec la personne que l'on accuse? Une enquête qui est pleine de charité va montrer très souvent à quel point nous avons tort d'évaluer les motifs, de juger les actions des autres. Et même si le roi Saül était engagé dans sa haine, dans sa méchanceté mal informée, la conscience claire de David était une grande aide dans sa prière. L'apôtre Paul nous rappelle dans sa lettre aux Romains, chapitre 12, verset 18, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Si on se conduit honnêtement, honorablement avec ceux qui nous entourent, notre conscience claire va aider à ouvrir nos cœurs dans la prière au Seigneur. À l'opposé, nous rappelle un commentateur, si on est coupable d'actes répréhensibles, alors on ne pourra pas prier avec assurance. On apparaîtra devant Dieu convaincu de péché plutôt qu'innocenté et assuré. Est-ce que nous sommes innocents dans notre comportement, dans notre attitude envers notre employeur, nos collègues, nos voisins, les membres de nos familles? Est-ce que quand nous traitons les personnes qui sont difficiles, est-ce que nous pouvons nous assurer et de pouvoir dire avec David que nous sommes sans faute, sans péché, que dans cette situation, nous sommes innocents? En plus de son effet sur nos prières, nous devons faire attention à la façon dont nous vivons, afin que nos bonnes œuvres glorifient Dieu, alors que même nous sommes persécutés. C'est ce que l'apôtre Pierre a rappelé dans sa première lettre aux chrétiens. 1 Pierre 2, verset 12, et puis verset 20. « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. » 1 Pierre 2, verset 12 et verset 20. Quand nous sommes haïs à cause de notre obéissance au Seigneur Jésus-Christ, la souffrance nous rapproche du Seigneur Jésus-Christ et nous rend conformes à sa ressemblance. L'apôtre Pierre conclut dans ce même passage, 1 Pierre 2, à partir du verset 21, en disant que nous sommes appelés à souffrir. Il dit: c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est trouvé aucune fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraitait ne faisait point de menaces, mais s'en remettait, à celui qui juge justement. Et donc David nous donne ensuite une troisième raison. Il a souligné le danger auquel il doit faire face. Il a mis en avant son innocence dans cette question. Il donne une troisième raison pour laquelle il espérait que Dieu le délivre du danger. Cette troisième raison est le caractère même de Dieu. David le supplie au verset 5, « Réveille-toi, viens à ma rencontre et regarde. » Et puis il continue au verset 6, « Toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d'Israël, lève-toi pour châtier toutes les nations. » Comme David avait lancé une série de prières fléchées, si on peut dire, au sujet du danger, maintenant il donne une liste de noms de Dieu qui, selon un commentateur, contiennent les raisons de l'aide divine qui lui est accordée. David crie « Ô Éternel !» Il utilise le nom d'Alliance, Yahvé, qui révèle la grandeur autosuffisante de Dieu. Il poursuit Dieu des armées. Il nomme Dieu comme le commandant des puissances du ciel, des puissances extrêmement plus fortes que les ennemis qui l'entourent. Et enfin, il prie le Dieu d'Israël, qui, comme le nom Yahvé, souligne ce lien d'alliance de Dieu comme le sauveur, comme le seigneur de son peuple. Bien sûr, David avait le droit d'appeler Dieu en utilisant ses noms parce qu'il était déjà d'une part un Israélite de chair, mais il était aussi un membre de l'alliance de Dieu par la foi. Et les croyants qui sont unis à Jésus-Christ par la foi aujourd'hui ont un nom encore plus grand, plus puissant à attribuer à Dieu dans leur prière. Le Seigneur Jésus-Christ a enseigné aux croyants à revendiquer nos privilèges d'enfants de Dieu en pouvant nous adresser à Dieu comme notre Père qui est aux cieux. L'apôtre Paul donne un moyen encore plus puissant d'approcher Dieu dans nos besoins en se référant à lui comme le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Éphésiens 1, verset 3. Et on peut donc présenter avec assurance nos demandes par la foi en Jésus-Christ, qui intercède maintenant pour nous à la droite de Dieu, qui porte dans son corps les marques de sa mort pour nos péchés. Sur la base du sang que le Seigneur Jésus-Christ a versé sur la croix, ce sang expiatoire, l'auteur de la lettre aux Hébreux nous encourage, Hébreux 4, verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Nous pouvons nous approcher, et nous devons nous approcher de Dieu avec la même audace que David manifeste ici dans ce psaume 59. Prions d'abord pour nos besoins réels, nos besoins urgents. Soyons capables ensuite de présenter notre innocence, même si nous confessons que nous sommes des pécheurs, que nous sommes imparfaits. Reconnaissons que nous avons besoin de sa grâce, et si nous avons fait du tort, faisons ce que nous pouvons pour remédier au mal avant de faire appel à Dieu. Et ensuite, venons avec audace, sur la base de qui est Dieu et des promesses qu'il nous a données dans sa parole. Quand nous approchons Dieu de cette façon, Jean Calvin voit des motifs solides pour notre confiance dans la prière. Il dit « Nous ne pouvons manquer de ressentir une plus grande liberté en plaidant une cause qui est la cause de Dieu lui-même. Il est le défenseur de la justice, le protecteur de la cause juste partout. Et ceux qui oppriment les innocents doivent nécessairement se classer parmi ses ennemis. » La première requête de David, la délivrance de ses ennemis. Mais avant d'arriver à la deuxième requête, il y a le premier refrain, c'est le deuxième point. Le premier refrain, s'attendre à Dieu. David fait appel aux différents noms de Dieu, aux promesses qui les accompagnent, et cela le conduit dans ce refrain, dans lequel il respire la confiance dans la délivrance que Dieu accordera. Les deux refrains, on les a, le premier dans le verset 10 et 11, et le deuxième dans le verset 17 et 18, sont presque identiques. David célèbre Dieu dans sa force. Notre traduction dit au verset 10, « Quelle que soit leur force, c'est en toi que j'espère, car Dieu est ma haute retraite. » Mais d'autres versions sont plus proches de l'original en disant « C'est toi qui es ma force, c'est en toi que j'espère » ou même « C'est vers toi que je regarde » ou « C'est toi que je guette, toi qui es ma force. » David exulte. Il sait qu'à cause de cette force, à cause de cette puissance, Dieu se moquera de ses ennemis. Verset 9. « Toi, Éternel, tu te ris d'eux, tu te moques de toutes les nations. » Mais David se réjouit aussi de la miséricorde fidèle du Seigneur. Verset 11. « Mon Dieu vient au-devant de moi dans sa bonté. Dieu me fait contempler avec joie ceux qui me persécutent. » Ce premier refrain, comme j'ai dit, est particulièrement remarquable pour la façon dont il est différent du deuxième. Au verset 17, David dit « Je chanterai ta force ». Ici, au verset 10, David prie « Toi qui es ma force, c'est vers toi que je regarde, ou c'est toi que je guette. » Et ce verset rejoint le thème de l'attente de Dieu, qui est souvent exprimé dans les psaumes de David. Mais ici, David n'attend pas simplement que Dieu fasse quelque chose. Il attend aussi avec impatience que cela se produise. Après s'être rappelé de qui est Dieu et quelles promesses Dieu a faites à son peuple d'alliance, David, dans son désespoir, laisse place à un optimisme qui attend la délivrance. L'expression de David, « C'est vers toi que je regarde », verset 10, nous rappelle le prophète de l'Ancien Testament, Habacuc, qui est devenu célèbre pour avoir érigé une tour de guet, où il guettait le salut de Dieu. Il attendait le salut, il attendait la délivrance de Dieu. Habacuc vivait à une époque où la plupart des Israélites s'étaient détournés du Seigneur, où des puissances étrangères méchantes attaquaient librement la nation de l'Alliance de Dieu. Cette situation consternait le prophète Habacuc, tout comme le complot meurtrier de Saül consternait David. Et le prophète ne comprenait pas pourquoi cela se produisait. Et comme David, Habacuc a souligné la férocité des attaques ennemies, il a fait appel au caractère saint de Dieu. Habacuc désirait une réponse. Il était déterminé à faire confiance au Seigneur et il déclare en Habacuc 2, verset 1, « J'étais à mon poste, je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. » Et David et Habacuc offrent tous les deux de bons conseils aux croyants qui sont consternés, qui sont dans la crainte, qui ne voient aucune issue à leurs problèmes. Que devrions-nous faire dans cette situation? Psaume 59 répond que l'on devrait faire appel à Dieu pour obtenir son aide, que l'on devrait s'assurer que notre conduite est irréprochable, puis attendre avec impatience la délivrance que l'on attend avec confiance de la part de Dieu. Et plus tard, alors qu'Israël faisait face à des circonstances consternantes, le roi Josaphat a prié dans le même esprit. Deux Chroniques, chapitre 20, verset 12. « Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. » Après avoir prié selon les promesses de Dieu, assurons-nous de garder nos yeux fixés sur Dieu, d'établir une tour de guet dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu, et d'attendre avec foi la délivrance promise. C'est ce que David fait dans ce premier refrain. Cela nous amène au troisième point, La deuxième requête. Si la première requête était la délivrance, la deuxième requête, c'est le jugement. Le jugement sur les ennemis. Et le langage de David est assez violent, assez virulent. Verset 12. Précipite-les, qu'ils soient pris dans leur propre orgueil. Détruis-les dans ta fureur. Détruis-les, qu'ils ne soient plus. Tout comme David a donné trois raisons dans sa prière pour la délivrance, il nous donne ici trois raisons pour le jugement sur ses ennemis. Tout d'abord, il considère l'instruction édifiante qu'un tel jugement fournirait au peuple de Dieu. Verset 12. Ne les tue pas, de peur que mon peuple ne l'oublie. Fais-les errer par ta puissance. Précipite-les, Seigneur, notre bouclier. Afin de servir de leçon pour les croyants, David demande que ses ennemis ne soient pas détruits d'un seul coup, mais plutôt que Dieu les écrase et les disperse de manière progressive. Et de cette façon, le peuple de Dieu remarquera ce qui arrive à ceux qui se rebellent contre le Seigneur. Mais de même, David désire que Dieu reçoive toute la gloire qu'il mérite pour son jugement qui est juste. Il prie au verset 14, pour que jusqu'aux extrémités de la terre, les gens sachent que Dieu règne sur Jacob. Et cette prière reflète le dessein de David en tuant le géant Goliath, en 1 Samuel 17, verset 46. Et David s'est adressé au géant en lui disant, « Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. » On doit également prier pour que Dieu nous sauve. Dieu rejette les puissances mauvaises de telle sorte que son peuple sera amené à la crainte respectueuse. Et que le monde sera persuadé du jugement de Dieu. Mais en attendant, quand on devient impatient avec le délai de l'intervention de Dieu, on devrait considérer que Dieu peut nous enseigner des leçons qui ne peuvent être apprises que sous l'affliction. On peut se plaindre que Dieu semble lent à nous délivrer, quand en réalité, il nous enseigne à ne pas l'oublier, à compter quotidiennement sur sa grâce. Il y a une instruction édifiante. La deuxième raison pour laquelle David demande le jugement de Dieu, c'est le péché de ses ennemis. Versets 13 à 14, leur bouche pêche à chaque parole de leurs lèvres. Ils ne profèrent que malédiction et mensonge. Le complot meurtrier de Saül était tout simplement quelque chose de mal, tout comme les hommes qui entouraient la maison de David violaient gravement la loi de Dieu. Il était donc juste que la loi de Dieu soit maintenue par la juste colère contre les ennemis de David. Nous aussi, sachant que Dieu juge le péché, on doit s'assurer que nos péchés soient pardonnés, que nous sommes cachés en Christ. Sinon, nous tombons sous la colère de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même avertit en Jean 8, verset 24, « Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Dieu a été patient en ne jugeant pas encore le monde entier, dans le but que nous apprenions la leçon de l'Évangile, c'est-à-dire le pardon par la foi en Jésus-Christ. Et bien que le mal ne dure qu'une courte durée, Dieu lui permet de continuer afin que nous apprenions la leçon de notre besoin de salut, que son peuple soit formé à marcher étroitement avec lui dans la foi, dans une foi confiante et en priant sans cesse. La troisième raison que David donne pour le jugement de ses ennemis, c'est que ses ennemis ne s'améliorent pas. Au contraire, ils s'aggravent. Verset 15, ils reviennent chaque soir. Ils hurlent comme des chiens, ils font le tour de la ville, ils errent çà et là, cherchant leur nourriture, ils passent la nuit sans être rassasiés. Dans le monde antique, les chiens étaient généralement considérés non pas comme des animaux de compagnie, mais comme des prédateurs effrayants. Le bruit des meutes de chiens remplissait les rues des villes avec des sons menaçants pendant toute la nuit. Les chiens affamés étaient dangereux, mortels. Peu importe ce qu'ils mangent, ils ont toujours faim. Et c'est le problème avec le péché. C'est le problème avec les méchants. Ils ne sont jamais satisfaits par leurs actes égoïstes et leur violence. Le commentateur dit, c'est la nature même du mal d'être insatisfait. Vouloir, mais ne jamais en avoir assez. Manger, mais ne jamais être rassasié. Saisir, mais toujours avoir l'objet du désir glissé entre ses mains. Et même de cette façon, Dieu juge le mal avant même le jugement final. Et combien sont différents l'expérience et le destin de tous ceux qui se détournent de leur péché pour accepter le Seigneur Jésus-Christ, pour accepter le salut que le Seigneur Jésus-Christ offre. Le psaume 23 décrit comme se réjouissant. Psaume 23, verset 5, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Et cela nous amène au deuxième refrain. Chanter la louange de Dieu. Comme j'ai dit, c'est une répétition du premier. Mais il y a quand même des différences. David célèbre sa confiance dans la force puissante de Dieu comme étant une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. Et il se réjouit dans la bonté que Dieu montre à son peuple. Et la clé pour comprendre ces versets, c'est le changement par rapport au premier refrain. David disait, on l'a vu au verset 10, avec cette difficulté de traduction, littéralement, « Toi qui es ma force, c'est vers toi que je regarde, ou c'est toi que je guette. » Et maintenant, il se réjouit au verset 18, « Ô ma force, c'est toi que je célébrerai. » Et la signification de ce changement dans la pensée de David est encore plus claire dans le texte original. Le changement d'une seule lettre transforme le mot « regarder »« shamar » en « célébrer » »« zamar ».« Regarder » devient « chanter » ou « célébrer ». Et voilà la grande différence que cela fait quand le peuple de Dieu se tourne vers lui dans la prière confiante. Notre peur cède la place à la foi. Pour que ceux qui guettent le Seigneur finissent par chanter les louanges de Dieu avec une grande joie. Et remarquez que David ne commence pas à louer le Seigneur parce que ses circonstances extérieures ont changé. Sa situation n'a pas changé du tout. La raison pour laquelle David chante maintenant en louange, c'est qu'il avait veillé, il a attendu la délivrance du Seigneur. Il a prié avec foi. Il a fait confiance au Seigneur de telle manière qu'il attendait avec impatience tout ce que Dieu allait faire pour le délivrer. Et ce qui, dans son cas, était d'ouvrir une fenêtre pour s'enfuir des méchants que le roi Saül avait envoyés pour le tuer. Et avant même, Dieu avait encouragé David à travers la prière de telle sorte que son cœur voulait chanter des louanges à Dieu pour sa fidélité. Est-ce que nous attendons des circonstances idéales avant de laisser notre cœur chanter les louanges à Dieu? Si on compte sur les changements extérieurs, on fera très rarement l'expérience de la joie que Dieu veut que nous connaissions, que nous partagions. N'importe qui peut être heureux quand les temps sont bons. C'est une marque du croyant, de celui qui est en Christ, de pouvoir se réjouir quand les temps sont mauvais. Ce n'est pas parce que les croyants sont stoïques qu'ils refusent d'affronter la vérité. Au contraire, le croyant se réjouit au milieu des épreuves parce qu'on se souvient de la fidélité de Dieu dans les temps passés. On fait confiance aux promesses de Dieu de bénir, de pourvoir aux besoins de ses enfants. On veille, on guette, on attend d'une telle manière à ce que nos cœurs soient encouragés et que notre attitude soit changée en joie. Rappelons-nous Josaphat, le roi, qui a admis qu'il ne savait pas quoi faire, mais qui a prié et a posé ses yeux sur Dieu. Le Seigneur a envoyé un prophète avec la nouvelle d'une victoire à venir. Il a dit à Josaphat de marcher avec tout le peuple en chantant, lisait 2 Chroniques 20, versets 14 et suivants. Et c'est ainsi que Dieu veut que nous affrontions nos difficultés en le louant avec les yeux qui sont fixés sur lui. Rappelons-nous encore le prophète Habacuc dans sa tour de guet. Le prophète était consterné, confus, bien qu'il se souvenait de Dieu. Il avait confiance dans la grâce de Dieu. Il s'est monté sur la tour, il a guetté ce que Dieu allait lui révéler. Et comme Habacuc a fait confiance, qu'il a guetté Dieu, la même chose lui est arrivée qu'à David dans ce psaume 59. Et cela nous arrivera aussi si nous faisons de même. À la fin du livre d'Habacuc, rien n'avait changé extérieurement. Rien n'avait changé dans ses circonstances. Mais en regardant à Dieu, en guettant avec foi et dans la prière, Habacuc lui-même a été transformé. Et on le sait, à cause de ce beau chant de joie, d'une joie satisfaite avec lequel Habacuc a loué le Seigneur. Habacuc 3, verset 17 et suivant. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs ni dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Et c'est le chant que Dieu désire entendre de chacun de nos cœurs. Si le psaume 59 est une indication de la raison pour laquelle Dieu retarde sa délivrance, peut-être qu'il veut que nous apprenions à chanter de cette façon, dans la tour de guet, dans la tour de guet de la foi. Le commentateur explique, la délivrance extérieure peut se faire attendre, mais avant qu'elle n'arrive, elle est précédée par le sentiment d'un fardeau allégé et le calme d'un cœur fortifié. Et de cette façon, la prière qui commence par la reconnaissance, qui continue dans l'attente, même dans la souffrance, dans le besoin criant, se terminera toujours par la reconnaissance, le triomphe et la louange. Que ces bénédictions intérieures soient le témoignage de notre foi en Dieu, alors que nous attendons, que nous guettons sa délivrance. Un poète et auteur de cantiques anglais, William Cowper, a écrit un cantique qui est intitulé « Sometimes a light surprises », on pourrait traduire « Parfois une lumière surprend ». Et dans la quatrième strophe, il adapte le chant du prophète Habacuc. Et il écrit ceci. « Même si la vigne ou le figuier ne portent pas leurs fruits, si tout le champ se fane, aucun troupeau n'est présent, Dieu demeure le même, et sa louange accordera ma voix. Car quand je me confie en lui, je ne peux que me réjouir. » Qu'il en soit donc ainsi pour nous, que Dieu nous aide à méditer ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.